SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Vous êtes avec SBS French.
À la une de l'actualité de ce mardi 21 mai 2024. 9 jours après le début des émeutes en Nouvelle-Calédonie, le climat reste abrasif sur place, mais les autorités notent malgré tout un relatif retour au calme, favorisé notamment par les importants renforts militaires envoyés depuis la France. L'aéroport de la Tontouta à Nouméa restera fermé jusqu'à au moins jeudi matin, mais les diplomaties australiennes et néo-zélandaises ont annoncé ce matin qu'elles avaient enfin reçu le feu vert de Paris pour y envoyer des avions militaires qui permettront de rapatrier leurs ressortissants. Et puis, une petite victoire pour Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, puisque la justice britannique l'a autorisé à faire appel de son extradition vers les États-Unis, où il encourt jusqu'à 175 années de prison. En Nouvelle-Calédonie, 9 jours après le début des émeutes, le retour au calme commence à se concrétiser. D'après le Haut Commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie, il a annoncé aujourd'hui le déploiement de moyens militaires pour sécuriser les bâtiments publics et l'arrivée de 600 effectifs supplémentaires depuis la métropole dans les prochaines heures pour compléter cette opération de sécurisation. Pour le président Emmanuel Macron, la situation sur place est, je cite, « en net progrès », mais son Premier ministre Gabriel Attal estime pour sa part qu'il reste encore du chemin avant le retour à la normale. Deux discours légèrement divergents et bien résumés par Marie Guévenoux, la ministre des Outre-mer, elle s'est exprimée sur France Inter.
Aujourd'hui, en Nouvelle-Calédonie, la situation s'améliore, mais évidemment reste très précaire. Aujourd'hui, nous avons 2700 forces de l'ordre qui ont été envoyées sur place. Vous avez vu qu'il y a une opération de police, de déblaiement, de levage des barrages, de 76 barrages sur cette route qui relie Nouméa à l'aéroport. Si les barrages ont été levés, il en résulte maintenant la nécessité pour les forces de sécurité civile de venir déblayer les routes qui sont envahies de carcasses de voitures, d'un certain nombre de choses, de façon à permettre l'acheminement et puis ensuite de ne pas voir leur reconstitution de barrage. Tous les moyens seront mis pour faire en sorte de rétablir l'ordre et le calme en Nouvelle-Calédonie. Donc s'il y a des renforts qui sont nécessaires, et il y en a d'ores et déjà qui ont été identifiés, ils seront envoyés.
Et concernant spécifiquement l'aéroport international de la Tontouta, les vols commerciaux y restent suspendus jusqu'à jeudi matin, date à laquelle la situation sera réévaluée, a précisé ce matin le Haut Commissariat de la République. En revanche, une bonne nouvelle pour les ressortissants australiens et néo-zélandais coincés en Nouvelle-Calédonie. Les gouvernements australiens et néo-zélandais donc ont en effet obtenu enfin le feu vert des autorités françaises, ils le réclamaient depuis plusieurs jours, pour envoyer des avions militaires sur place afin de rapatrier donc leurs ressortissants. Penny Wong, la chef de la diplomatie australienne, a ainsi annoncé le départ aujourd'hui de 2 avions en direction de Nouméa. Elle a précisé que les passagers aux besoins les plus pressants seront priorisés pour ces vols de retour vers l'Australie. Pour ce qui est des Calédoniens toujours bloqués, eux, en Australie, je vous rappelle que dimanche, le consul général de France a adressé à l'ensemble de la communauté française un appel à la solidarité. 230 personnes ont ainsi proposé une solution d'accueil à leur domicile et l'association French Assist a pour sa part déjà récolté un peu plus de 6 500 $ auprès de particuliers, des fonds qui doivent servir à fournir de l'aide alimentaire ou à répondre à des besoins médicaux. C'est une annonce qui a suscité de très vives réactions sur la scène internationale. 2 hauts responsables israéliens et 3 du Hamas sont dans le collimateur du procureur de la Cour pénale internationale. Karim Khan, c'est donc lui le procureur, a en effet demandé l'émission de 5 mandats d'arrêt ciblant le chef du gouvernement israélien, Benjamin Netanyahou, son ministre de la Défense, mais aussi les 3 principaux dirigeants du Hamas. Il accuse les 5 de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre commis dans la bande de Gaza. Alors comment va se dérouler la suite de ce processus? On écoute les explications de François Dubuisson, professeur de droit international à l'Université libre de Bruxelles. Il s'est exprimé à l'antenne de notre partenaire Radio France Internationale.
Généralement, ça prend quelques semaines. En tout cas, si on prend comme exemple le cas de Vladimir Poutine, la chambre préliminaire avait mis un peu plus de 3 semaines à rendre sa décision, donc ça pourrait intervenir relativement vite. Et la chambre préliminaire va surtout examiner si les preuves qui sont fournies sont suffisamment substantielles, suffisamment convaincantes pour en tout cas confirmer le lancement d'un mandat d'arrêt. En l'occurrence, on peut penser que le procureur a pris toutes les précautions nécessaires pour que les preuves soient suffisantes et substantielles. Et il a indiqué d'ailleurs s'être entouré de manière tout à fait spécifique par un ensemble d'experts internationaux pour à la fois aborder les questions de droit international, mais aussi vérifier la véracité des preuves. Donc probablement que le dossier doit être assez solide et pourrait être confirmé par la chambre préliminaire.
En Iran, la succession d'Ebrahim Raisi commence à s'organiser. Le président iranien, mort dimanche dans un accident d'hélicoptère, sera remplacé à l'issue d'élections qui se tiendront le 28 juin prochain. C'est ce qu'ont annoncé les autorités judiciaires iraniennes. À la suite de ce décès, de nombreux dirigeants un peu partout dans le monde ont adressé des messages de condoléances, y compris depuis des pays, entretenant pourtant des relations très tendues avec le régime de Téhéran. Une démarche pas toujours comprise et même parfois très vivement critiquée, en particulier en Europe. On fait le point avec Laure Broulard à Bruxelles pour RFI.
Plusieurs personnalités européennes ont exprimé leur indignation sur X, anciennement Twitter. Honte à vous, écrit ainsi l'eurodéputé suédois David Lega, qui demande aux dirigeants européens s'ils peuvent regarder dans les yeux les courageuses femmes et combattants de la liberté d'Iran. Réaction également de l'ancien secrétaire d'État belge Théo Franken, qui dénonce des condoléances européennes pour la mort d'un boucher cruel et d'un meurtrier de masse. Ebrahim Raisi était considéré comme l'un des piliers du camp conservateur à Téhéran et figurait sur la liste noire américaine des responsables iraniens sanctionnés pour complicité de graves violations des droits humains. Les internautes pointent également du doigt l'activation hier du système européen Copernicus de cartographie pour aider l'Iran à retrouver l'hélicoptère du président décédé. Une opération annoncée via le hashtag Solidarité de l'UE est défendue aujourd'hui par le commissaire européen en charge de l'humanitaire, Yanis Lenarčič. Ce n'est pas un acte de soutien politique à un régime, mais simplement l'expression de l'humanité la plus élémentaire, a-t-il déclaré. Laure Broulard, Bruxelles, RFI.
Et c'est une petite victoire pour Julian Assange et ses partisans. La Haute Cour de Londres a en effet accepté que le fondateur australien de Wikileaks fasse appel de son extradition vers les États-Unis, où il encourt jusqu'à 175 années de prison pour espionnage. Les juges britanniques auraient en effet estimé que Washington ne pouvait garantir qu'il ne serait pas condamné à mort, ni que sa liberté d'expression serait assurée. C'est en tout cas ce qu'ont expliqué les avocats de Julian Assange. Son épouse Stella a pu échanger avec lui à l'issue de l'audience à laquelle il n'a pas assisté en raison de son état de santé. Elle l'a rencontré là où il est détenu, à la prison de Belmarsh, et voici ce qu'elle a confié à son sujet.
He was obviously relieved, he hadn't slept all night and he's under enormous pressure. It's hard for all of us, but just imagine what it's like for Julian, who has been in Belmarsh for over 5 years and who has had to endure this grueling process from inside his cell and isolated from everyone and from a distance. So it's a very good sign today.
Rien ne va plus entre l'Argentine et l'Espagne. Dimanche, Madrid a rappelé son ambassadeur à Buenos Aires après des propos jugés insultants du président argentin Javier Milei à l'égard de la femme du premier ministre espagnol Pedro Sanchez. C'est celui qu'on surnomme le Trump de la Pampa. A refusé de s'excuser et en a même, à vrai dire, remis une couche. À Buenos Aires, le récit de Théo Conscience pour RFI.
pris conscience.
Le président argentin a continué à jeter de l'huile sur le feu ce matin en affirmant sur les réseaux sociaux, je cite, qu'il surfait sur une vague de larmes socialistes en référence à la réaction du gouvernement de Pedro Sanchez. Après une première passe d'armes diplomatique il y a 15 jours, Javier Milei est venu en Espagne ce week-end, pas pour rencontrer les autorités du pays, mais pour participer à un événement organisé par le parti d'extrême droite Vox. Pendant son discours, le président argentin s'en est pris sans la nommer, mais de façon très claire à la femme de Pedro Sanchez, en l'accusant de corruption. Réaction immédiate du gouvernement espagnol, qui a rappelé son ambassadrice à Buenos Aires pour consultation, convoqué l'ambassadeur argentin en Espagne et qui a exigé des excuses publiques du président argentin en laissant planer la menace d'une rupture des relations diplomatiques. Une perspective balayée ce matin par le porte-parole de la présidence argentine qui a estimé que Javier Milei n'avait aucune raison de s'excuser et que cette crise était en réalité une affaire personnelle entre le chef d'État argentin et le premier ministre espagnol qui n'avait pas vocation à affecter les relations diplomatiques entre les deux pays. Théo Conscience, Buenos Aires, RFI.
Telstra, le leader australien des télécommunications, a annoncé aujourd'hui qu'il allait supprimer 2800 emplois d'ici à la fin de l'année. Un coup de rabot justifié par la PDG du groupe, Vicky Brady, par la nécessité d'accroître la productivité de l'entreprise et de simplifier ses opérations. Elle compte en parallèle investir pour accroître les capacités de l'opérateur téléphonique à traiter d'importants volumes de données, mais aussi pour améliorer la connectivité à travers l'Australie. Ni les syndicats ni les employés n'avaient été prévenus de ce plan social, mais Vicky Brady a ajouté que les premières consultations vont commencer aujourd'hui, et ce alors qu'une première vague de licenciements portant sur 377 emplois va être enclenchée.
We will continue to work through the detail as fast as we can on the remaining proposed changes, and I anticipate being able to update our employees around mid-July. As part of our ongoing work to reduce our costs, we will also focus on other cost categories, including non-labour related costs.
L'Australie, un des plus grands producteurs et exportateurs d'énergie fossile au monde, risque-t-il le blackout ? C'est ce que craint l'AEMO, le régulateur australien de l'énergie, qui relève dans son dernier rapport que la fermeture de plus de 60% des centrales à charbon du pays d'ici à 2033 pose un vrai problème dans la mesure où plusieurs projets de génération d'énergie, cette fois issus d'énergie renouvelable, censés prendre la suite de ces centrales, accusent d'importants retards, en particulier en Nouvelle-Galles du Sud, dans le Victoria et en Australie méridionale. Sans surprise, la sénatrice d'opposition Bridget McKenzie a profité de la publication de ce rapport pour critiquer le gouvernement travailliste sur Channel 9. Elle l'estime incapable d'atteindre les objectifs qu'il s'est lui-même fixés en la matière.
We've got particularly in Victoria and New South Wales having to purchase emergency energy supplies. That's not cheap, so your power supply is going to go up, not down. And what they also said was that coal-fired power stations are going to stay open for longer under Labor because these renewable projects, it's not all about renewables, are being held up by environmental laws. So yeah. There's no credible plan to net zero by 2050 under Labor.
Et pour terminer ce bulletin d'information, on jette maintenant un œil à la météo du jour en Australie. 27 degrés et du soleil aujourd'hui dans le ciel de Perth. En revanche, temps couvert à Adélaïde, 17 degrés y sont attendus, 15 à Melbourne où la journée sera ponctuée par des averses. Précipitations légères mais très probables également ce mardi à Sydney où il fait 19 degrés, 24 et du soleil plus au nord à Brisbane. Enfin, grand beau temps et 32 degrés au thermomètre aujourd'hui à Darwin.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.